François Bernard.
Bonjour ou bonsoir, merci de nous accueillir. Notre reportage tout à l'heure nous amènera dans la baie de Han qui a vu se développer des industries polluantes qui ont transformé sa jolie plage en véritable désastre écologique. La France et le Sénégal ont signé une convention pour que cette baie redevienne le paradis touristique qu'elle était.
Maintenant, il n'y a plus rien, il n'y a pas beaucoup de poissons. Maintenant, il y a beaucoup de saleté et tout ça. Avec les caniveaux qui viennent en haut pour verser l'eau usée ici en mer. Il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup d'intoxication des poissons et tout ça. Oui, les plastiques, il y a tout ça. Il y a beaucoup de déchets ici.
Ce reportage de Marie-Laure Josselin a écouté dans une vingtaine de minutes. Après quoi, nous avons rendez-vous avec TerraTech qui s'intéresse aujourd'hui aux énergies renouvelables utilisées pour l'éclairage public et routier. Mais pour l'instant, il est l'heure du commentaire de l'actualité environnementale de ce mercredi. Sandrine Maty est la présidente du réseau Action Climat France. Elle nous a rejoint en direct dans le studio 159 de RFI. Bonjour et merci.
Bonjour.
On commence avec cette déclaration hier d'un délégué soudanais à la conférence de Copenhague sur le réchauffement climatique. L'Afrique, dit-il, va demander aux pays industrialisés des milliards de dollars en compensation à l'occasion de la conférence mondiale sur le climat à Copenhague. La compensation pourrait aller jusqu'à 5% du produit intérieur brut mondial. Ça ferait quand même quelques milliards de dollars. C'est une idée saugrenue ou une idée légitime, selon vous ?
Je pense que c'est une idée tout à fait légitime, puisqu'il ne faut pas oublier que les pays qui vont en premier lieu souffrir des conséquences du changement climatique sont bien sûr les pays où il y a déjà beaucoup de sécheresse et de manque de ressources en eau, et typiquement les pays africains. Donc c'est quand il va falloir financer des projets d'adaptation à ces impacts et financer des projets d'alerte, par exemple, pour en cas de pic de sécheresse ou d'invasion d'espèces type les criquets du fait du changement climatique, il va falloir mettre de l'argent sur la table. Et donc, c'est tout à fait normal que les pays africains demandent de l'argent. Et nous les soutenons dans ces demandes. Nous allons même jusqu'à demander que les pays industrialisés s'engagent sur un chiffre de 100 milliards par an d'ici 2020 pour aider les pays les plus vulnérables au changement climatique.
Est-ce que c'est une idée qui a une chance d'aboutir ?
Ce qui est sûr, c'est que c'est un des nœuds des négociations pour la conférence de Copenhague, et que si les pays industrialisés ne décident pas de mettre de l'argent sur la table, on n'aura pas d'accord à Copenhague. Mmh. Jusqu'à présent, l'Europe a été très très frileuse à ce niveau, et elle attend la dernière minute pour dire si elle mettra effectivement ou non de l'argent sur la table.
Le deuxième congrès mondial d'agroforesterie, ça se passe à Nairobi, c'est au Kenya, ça dure jusqu'à demain je pense. Un rapport publié, on en parlait en début de semaine, révèle que près de la moitié des terres agricoles dans le monde ont une couverture forestière, jusqu'à 10%. Cela suggère donc que l'agriculture est bien moins destructrice des forêts qu'on le supposait. Peter Minang est chercheur, il est camerounais, il participe au congrès, il a fait mention de cette découverte qui pourrait, dit-il, jouer un rôle dans les discussions de Copenhague. Écoutez-le.
Avant, toutes les estimations étaient entre 50 000 hectares et 300 millions d'hectares. Mais ce que nous constatons avec notre étude, c'est qu'il y a plus d'un milliard de terres plantées par des arbres.
Et alors, c'est une bonne nouvelle ?
Une très bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, il y a trois problèmes très importants dans le monde. Il y a d'abord le changement climatique, il y a aussi la pauvreté et il y a des problèmes associés aussi au changement climatique tels que la sécheresse. Donc l'arbre offre quelques opportunités aux planteurs, aux petits planteurs, aux cultivateurs de partout dans le monde, surtout en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Oui, la pauvreté est vraiment étendue, donc ça nous permet d'augmenter un peu la séquestration de carbone et puis ça nous démontre qu'il y a une atténuation du changement climatique déjà à travers ces plantations agricoles. Et deuxièmement, ça donne la possibilité à ces petits paysans de s'adapter au changement climatique, surtout dans les conditions de sécheresse comme au Kenya aujourd'hui. Et puis, ça leur donne plusieurs possibilités de gagner un peu plus avec des produits issus de ces arbres.
Le chercheur camerounais Peter Minang en ligne de Nairobi. Sandrine Matisse, ça pourrait être une nouvelle piste de lutte contre le réchauffement climatique, donc favoriser l'implantation d'arbres sur les terres agricoles?
Il faut savoir quel type d'arbre est implanté pour quoi faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les principales sources de déforestation qu'on a, que ce soit en Indonésie ou au Brésil, sont du fait de l'exploitation de produits alimentaires pour la nourriture des animaux ou pour la nourriture humaine. Donc les plantations de soja, etc., etc. Il faut voir aussi qu'on plante, on déforeste on coupe des forêts naturelles primaires pour planter des eucalyptus qui permettent là aussi d'avoir du stockage de carbone, mais qui ont un impact dévastateur sur le reste de la biodiversité. Les forêts d'eucalyptus, c'est absolument une catastrophe. Donc il faut voir, prendre en compte la reforestation et les plantations, c'est une bonne chose, mais il faut aussi tenir compte, pas uniquement du stock en carbone, mais aussi des revenus pour les populations locales, des autres dimensions du développement durable, c'est-à-dire des impacts sociaux sur les populations. Effectivement, augmenter le revenu des petits producteurs et introduire ça dans une économie locale et en prenant compte donc les droits de l'homme, etc., etc.
D'accord. Il y a une grosse actualité polaire aujourd'hui. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, se rendra la semaine prochaine en Norvège pour voir sur place les effets du réchauffement climatique. Et puis il y a 150 chercheurs et experts internationaux qui sont réunis à Nuuk, c'est la capitale du Groenland, pour faire le point donc sur les changements climatiques en Arctique, évaluer aussi ses conséquences futures sur l'hémisphère nord. Le pôle Nord, on a vraiment l'impression que c'est la zone stratégique dans le combat pour le réchauffement climatique ou contre.
Alors, bah, effectivement, c'est une zone très très emblématique. Bah, déjà, c'est l'ours polaire. Effectivement, tout le monde est attristé par la disparition de l'ours polaire. Ça nous touche fortement. Ces glaces polaires avec lesquelles on a toujours vécu, bah, avec le réchauffement climatique, on commence à se faire l'idée que peut-être que dans quelques décennies, il n'y en aura plus. Et effectivement, la fonte de la glace va beaucoup plus vite que ce que les plus éminents scientifiques avaient prévu. Ce qui pose un problème aussi, c'est que du coup, ces terres deviennent libres à l'exploitation et que un des dangers et un des problèmes que pose le réchauffement climatique pour cette zone, c'est aussi la course à l'exploitation du pétrole qui se trouve dans le sous-sol, dans le sous-sol arctique, et qui du coup donne lieu à des conflits entre les pays qui se revendiquent, qui veulent devenir propriétaires de ces terres. Donc un des impacts aussi du changement climatique.
Une des choses qui commence à apparaître en tout cas, c'est que les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre seront de toute façon en deçà des recommandations scientifiques. Alors on se dit, tout ce travail, toute cette mobilisation pourrait aller finalement droit vers un échec. C'est un petit peu désespérant, non ?
C'est sûr qu'aujourd'hui, à quelques mois de la conférence de Copenhague, on est encore très très loin d'avoir des objectifs qui soient sur la table, qui soient suffisants pour permettre de restreindre à 2 degrés le réchauffement planétaire. Aujourd'hui, il faudrait arriver à un objectif cumulé des pays industrialisés de moins 40% en 2020. Quand on regarde les objectifs qui sont sur la table, on est entre moins 10 et moins 15%. Je pense qu'il ne faut pas désespérer, il faut continuer la lutte. Il faut, de toute manière, le réchauffement climatique, la lutte pour le changement contre le réchauffement climatique ne s'arrêtera pas à Copenhague. Et on verra, mais il faut que tout le monde continue à lutter dans cette direction.
Sandrine Mathy est l'invitée de C'est pas du vent ce mercredi.
Respond to the name you have given me in the dark of the night. I won't respond to the name you have given me. Prepare for the cruelest of fights. I will name myself. I'll name
you composed in the dark of the night. I won't become the name you have given me. Prepare for the coolest of fights.
Adina Tunji, elle est à moitié norvégienne, moitié gambienne. La chanson qu'on a choisi de vous faire écouter s'appelle White Lies. On est en compagnie de Sandrine Maty, on est en direct sur RFI. Vous êtes la présidente du réseau Action Climat France. C'est une association qui est préoccupée par le changement climatique. Alors j'en profite pour vous poser une question qu'on me pose souvent à moi. Est-ce qu'on est bien sûr que l'activité humaine est bien responsable du réchauffement de la planète que nous constatons?
Ah là là, combien de fois on a pu répondre à cette question?
Alors, une fois de plus, allez-y.
Écoutez, le dernier rapport du GIEC, qui est le groupe international d'experts pour le climat, qui a reçu le prix Nobel de la paix pour son travail effectué il y a 2 ans, le GIEC a établi avec plus de 90% de certitude, et encore, il faut voir que le GIEC c'est un compromis à minima, donc c'est la fourchette basse, que le réchauffement climatique est dû à l'activité humaine. Les activités humaines, du fait de la combustion des énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz, du fait de la déforestation, des activités agricoles, ont complètement déréglé l'équilibre qu'il y avait, l'équilibre au niveau des échanges entre l'atmosphère et la biosphère, qui font qu'aujourd'hui on a une accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, que les forêts, les océans ne sont plus en capacité d'absorber ce qui est relâché dans l'atmosphère.
Donc on a des réchauffements climatiques, il y en a déjà eu dans l'histoire
de
l'humanité ?
Oui, il y en a déjà eu. Il faut savoir que par exemple le réchauffement climatique qui nous menace aujourd'hui est de l'ordre, on risque un réchauffement de l'ordre de 5 à 6 degrés. 5 à 6 degrés, c'est en gros la température qui nous sépare de la dernière glaciation. Et 5 à 6 degrés, dernière glaciation, ça veut dire 3 km de glace sur l'Angleterre. Donc il faut voir aussi ce que ça veut dire. Bon là, ce serait dans l'autre sens, dans le sens d'un réchauffement. Mais ça veut dire que 5 à 6 degrés en plus, quand on voit déjà l'impact par exemple de la canicule en 2003, si on doit être confronté à des canicules comme ça tous les 2 ou 3 ans, donc les impacts sanitaires. Le problème n'est pas tant qu'on ait un réchauffement. En soi, le réchauffement, je dirais, on s'en fiche. L'important et ce qui est grave, c'est le rythme avec lequel ce réchauffement se produit, puisque les variations de température qu'on avait, par exemple, pour la dernière glaciation, ces variations étaient de l'ordre de 1000 à 10 000 fois plus lentes. Aujourd'hui, avec l'espèce humaine qui est sur la planète Terre, la question est de savoir comment cette espèce humaine va s'adapter, comment les plantes vont réussir à s'adapter, comment les espèces animales vont réussir à s'adapter. On risque d'avoir des disparitions encore plus dramatiques que celles auxquelles on assiste aujourd'hui.
D'accord. Donc, vous préparez activement toutes les actions nécessaires à le ralentir, on va dire, notamment ce sommet de Copenhague, avec des partenaires africains, au Mali, au Maroc. Alors expliquez-nous comment ça se passe.
Effectivement, le réseau Action Climat a monté un espèce de réseau climat-développement avec des ONG africaines, donc des ONG que ce soit au Sénégal, au Mali, au Bénin, en Guinée, dans les pays du Maghreb, qui permettent donc d'avoir des réflexions de manière régulière ensemble sur quelles revendications porter ensemble devant les négociateurs. Donc ce réseau existe depuis 2 ans. Il y a déjà eu plusieurs ateliers qui ont eu lieu en Afrique, donc avec les ONG et des négociateurs africains, et qui a permis d'élaborer des plaidoyers communs, où donc nous portons des mesures de manière commune pour être plus crédibles et avoir plus de poids au sein des négociations internationales.
Alors, vous m'avez envoyé un courrier ce matin pour me signaler un ultimatum climatique lancé par 11 ONG environnementales de solidarité internationale, droits de l'homme, développement, je ne les citerai pas toutes, qui vise à recueillir 1 million de signatures pour cette conférence internationale de Copenhague pour faire une pression supplémentaire, c'est ça ?
En fait, donc c'est 11 ONG. Donc c'est important de dire que ce n'est pas que des ONG environnementales. Parce que le climat, ce n'est pas qu'un problème d'environnement. C'est aussi un problème de droits de l'homme, c'est aussi un problème de solidarité internationale et c'est un problème de développement. On ne peut pas parler du réchauffement climatique sans penser aux objectifs du millénium, par exemple. Et donc, 11 ONG... ont lancé un appel à Nicolas Sarkozy pour lui dire de s'engager de manière ferme sur des objectifs ambitieux, objectifs qui sont les seuls qui nous permettront de maintenir un réchauffement en dessous de 2 degrés. Et ces objectifs doivent être que la France milite pour un objectif de réduction des pays industrialisés de moins 40% et que les pays industrialisés mettent sur la table 100 milliards d'euros par an d'ici 2020. Effectivement, nous voulons qu'il y ait une mobilisation autour de cet appel, parce que le climat, c'est l'affaire de tous. On voit bien, par exemple, les discussions sur la taxe carbone, on voit bien que les politiques climatiques qu'on va mettre en œuvre vont toucher l'ensemble de la population. Donc c'est aussi à l'ensemble de la population, à l'ensemble des syndicats, des partis politiques, de la société civile, de s'exprimer. Et de dire à Nicolas Sarkozy, nous voulons que le changement climatique n'impacte pas nos sociétés, et nous voulons donc que des mesures très ambitieuses soient mises en œuvre. D'accord. Donc il y a un site internet qui est dédié à cet appel, www.copenhague-2009.com, où il y a cet appel qui est en ligne et où on a donc, où chacun a la possibilité de le signer. Aujourd'hui, nous sommes à 130 000 signataires environ. Nous en voulons 1 million pour la fin novembre. Il faut que tout le monde se mobilise autour de ça. Sachez qu'il y aura aussi d'autres actions organisées autour de cet ultimatum climatique, notamment un concert le 22 novembre, je crois, au Zénith, avec Bernard Lavillier, Trio, Yannick Noah. Donc, un concert pour le climat. D'accord. Et plein d'autres actions qui seront lancées.
L'info est passée sur RFI. Vous avez, Sandrine Mathieu, une formation scientifique. Vous êtes ingénieure, vous êtes chargée de recherche au CNRS. C'est votre savoir scientifique qui vous a convaincu d'embrasser la cause environnementale ?
Oh, c'est mon savoir scientifique. C'est la chance que j'ai dans mon travail de côtoyer des gens qui ont une expertise formidable, des gens très intéressants, des gens qui ont une vraie richesse, qui permet de voir un peu les articulations, l'interdépendance de... le climat, c'est un problème. On doit trouver des solutions sur le plan économique, mais tout ça est en articulation avec la biodiversité, avec les sciences du climat. Donc, c'est un problème complètement transversal et qui permet de faire le lien aussi entre plusieurs disciplines au sein de la recherche. Donc, cette vision globale que m'apporte mon travail au sein du CNRS me permet d'alimenter aussi les réflexions pour lutter contre le changement climatique à un niveau plus militant.
Merci Sandrine Mathieu, on a plaisir à vous recevoir, entendre vos explications sur l'actualité, sur les prochaines échéances environnementales. À bientôt sur RFI.